Donc, quelle mise en pratique sur le thème de l'eau? Donc, en fait, intitulé du coin à l'atelier de la petite section CP, pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est appuyé. Je vais vous donner des éclaircissements sur, en particulier, les deux vidéos qu'on a revues ce matin. Donc, des précisions par rapport à ce coin eau dont on a parlé, qui s'appelait coin eau à l'époque, donc j'ai laissé ça dans le diaporama. Donc je redis, réveil de la sieste à partir de 15h, 16h05, 6 élèves, des règles, ne pas boire l'eau, ne pas jeter l'eau par terre, éponger dès que l'eau se renverse. Alors, des interventions du maître qui sont réduites au rappel des règles de fonctionnement et de sécurité. Donc voilà les grandes idées. Donc, je vous ai dit, c'était deux fois par semaine, à peu près, maximum. Alors, les avantages relevés par Marie Pirot, qui est donc la collègue de petite section, donc toute petite section et petite section du groupe de recherche. Alors, effectivement, il y a ces coins sont davantage sollicités au réveil par les élèves de 3 ans. Donc les élèves se réveillent doucement, ils aiment qu'on leur laisse une marge de manœuvre, une autonomie sans contrainte de durée. La demande par rapport à ce coin est très forte par rapport à d'autres propositions qu'il y a dans la classe. Pour mémoire, le garage, la maison, le coin sable, du matériel sur les tables, dessin, coloriage, découpage, collage. Et puis, des ateliers qui existent aussi le matin, peinture, jeu de maths. Alors, effectivement, vous avez vu, participation au remplissage et à la vidange. Et le fait aussi que le professeur n'est pas très loin pour veiller au respect des règles. Alors, il y a des inconvénients aussi sur le choix qui a été fait dans cette classe-là. Les inconvénients, vous allez pouvoir les deviner, les premiers levés ne peuvent être prêts qu'à partir de 15h10, qui est le temps à cause du temps de l'habillage. Ce sont toujours les mêmes et les premiers réveillés qui ont accès à cet espace, puisque souvent l'ordre de lever est toujours à peu près le même. Il y a des élèves qui ne viennent pas l'après-midi. C'est aussi un inconvénient. C'est un espace qui est temporaire, c'est-à-dire qu'il faut l'installer, l'installer et puis le ranger, ce qui fait que ça dure à peu près 55 minutes. Il commence à être vidé à 16h05, il faut à peu près 10 minutes pour le vider. Vous voyez, on arrive 16h05, après comme il y a les parents, enfin les mamans comme ils disent, et les papas qui arrivent, donc voilà. Vous avez vu que le fonctionnement il est régulé par le nombre de blouses, 6 blouses. Et les autres espaces de la classe fonctionnent avec des colliers de couleurs spécifiques en nombre limité pour chacun des espaces. Donc voilà, le rôle de l'adulte, ce que vous en avez vu, Marie-Paul le dit, c'est vraiment limité au rappel des règles de fonctionnement et de sécurité. Et le maître est aussi dans la sollicitation... pour les élèves, s'il y a un élève qui demande à aller sur cet espace-là, le maître va intervenir pour savoir si y en a un qui veut quitter. Il va éventuellement nommer un élève pour qu'il quitte l'espace pour laisser sa place. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi une régulation de la participation des élèves. Et cette régulation, elle est en fonction aussi d'un carnet où l'enseignant note les passages de façon à avoir en tête le passage de tous dans cet espace. Alors, il y a du matériel qui est disposé sur deux plateaux à côté du bac. Donc, le maître a choisi de ne pas mélanger, c'est ce qu'a dit Marilyn, des objets du commerce et des objets courants de récupération. Elle a évacué du matériel les jouets, c'est-à-dire les échelles, les bateaux, les bonhommes Playmobil. Elle a évacué les jouets d'eau du commerce, c'est-à-dire les dauphins qui aspirent les moulins, les pompes à eau. Donc, il n'y a pas de jouets. Elle considère qu'effectivement, ces jeux, elle a constaté qu'ils sont très attrayants par leurs couleurs et leur qualité, ce sont les jouets que les enfants utilisent dans le bain, hein, souvent, discréditent les objets familiaux de récupération. Donc il y a ce choix-là, il a été fait. Ce que vous avez sur la photo, là, c'est assez parlant. Donc, je vais vous faire un petit inventaire de ce qu'elle a mis, en fait, du matériel dont elle dispose. Donc, vous avez des flacons à visser. Flacons à visser, ça va depuis les bouteilles d'un litre de jus de fruits, les petites bouteilles de yaourt liquide, des petits flacons d'hygiène, un petit flacon style, vous savez, les petits flacons de laboratoire médical là pour les analyses d'urine. Il y a des flacons à presser, ketchup, shampoing avec bouchon difficile à enlever. Vous avez des bouchons à clapet, gel douche, shampoing, etc., avec en plus que ces bouchons à clapet, en plus, ils se dévissent. Des flacons à poussoir, comme les flacons des produits à vitre, ou des savons liquides. Et tous ces flacons sont présentés avec leur bouchon au départ. Hein, c'est pas simplement le récipient, mais c'est le récipient plus le bouchon. En plus, elle a identifié un certain nombre d'objets à fonction particulière. Il y a deux pipettes à antibiotiques, il y a des cuillères mesures creuses, il y a une louche de dinette, il y a quatre entonnoirs, des tasses en plastique et des verres. Donc voilà pour le matériel. Donc l'idée importante, c'est que ce dispositif est installé sur un temps long, et c'est un temps à la fois long et régulier qui va permettre progressivement la maîtrise des gestes et la connaissance des objets. Alors, quelques indicateurs. Marie-Paul remarque à la reprise du mois de janvier une réelle maîtrise du remplissage pour tous ceux qui pratiquent le coin haut depuis octobre. Alors ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au PE2. Cette dimension temps long est quelque chose de très difficile à faire passer en formation. Toujours en janvier, ils sont capables de plonger le flacon dans l'eau, de terminer le remplissage à l'extérieur du bac. Ils sont capables d'utiliser de façon variée et efficace, c'est-à-dire le choix de l'outil adapté à la tâche que l'on veut effectuer. Donc des cuillères, des entonnoirs. Hein. Les premières vidéos, on a des élèves qui essayent de remplir en utilisant une passoire ou un entonnoir. Bon, je crois que vous avez peut-être déjà vu ça. Et puis progressivement, qui n'utilisent plus la passoire et l'entonnoir, et se disent qu'un récipient fermé, ça serait peut-être un petit peu plus efficace. L'utilisation de petits objets pour remplir les grands, notamment, vous avez vu, lorsqu'il reste presque plus d'eau, le fait de faire le choix de prendre un petit verre va être plus efficace que d'essayer de frotter au fond le gros pichet. Donc ça, c'est des compétences qu'ils vont acquérir progressivement sur cette période. On observe en janvier, il n'y a plus de débordement, il y a un ralentissement des gestes, une précision du geste, et puis notamment sur le remplissage, en fin de remplissage, les élèves diminuent les quantités pour pouvoir ajuster. Donc on est sur une coordination humaine, et puis il y a une centration et une attention portée sur l'action. On n'est pas du tout dans la verbalisation, on est plutôt dans des attitudes corporelles impliquées. Alors, je voulais dire un petit mot aussi de ce problème de la verbalisation, toujours par rapport à la formation, parce que quelque part, on est aussi là par rapport à ce témoignage. On a, au niveau de l'UFM, quelque chose de très fort au niveau de la maîtrise du langage et de la nécessité de travailler la maîtrise du langage, avec des confusions qui fait que les PE2 sont dans l'idée, il faut absolument que les élèves parlent. Hein. Et donc... malgré tout le travail qu'on essaye de faire en formation, moi je me rappelle avoir été sur une visite de PE2 qui avait vu tout ça, qui avait mis en place un espace haut avec un élève, il y avait un seul élève, et je la vois encore, l'élève il était en train de remplir, de vider, il avait une petite bouteille, ça faisait pas longtemps que la PE2 était là, donc c'était très nouveau, il jouait, et la PE2 là était à côté en train de lui dire, bon, alors, et qu'est-ce que c'est que tu as dans la main? Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Et elle voulait absolument faire du langage sur ces moments qui sont des moments où, en fait, c'est par le geste et par l'action que l'enfant construit ses compétences. Et le langage, c'est un autre moment et il faut le décaler. Donc, vous voyez, du côté de la formation, on a des messages importants là à faire passer. Alors, donc, ces activités libres dans cet espace vont permettre de réelles explorations de la diversité des matériaux, des objets et des phénomènes. Et là, vous rentrez dans toute une réflexion sur le matériel que le maître va choisir de mettre sur cet espace. Vous voyez qu'en fonction du matériel choisi, on va aller sur de l'apprentissage autour de matériaux, d'objets, de phénomènes. Les objets plastiques qui permettent des actions, remplir, vider, transvaser, faire couler, aspirer. Vous pouvez choisir aussi les objets de type éponge, lavette, gants de toilette, où on est plutôt dans des actions de type essorer, éponger. Marilyn en a parlé tout à l'heure, les élèves vont aussi pouvoir utiliser les éponges pour remplir. Ils vont prendre, essorer, et puis essayer de remplir ou de vider le bac avec l'éponge. Et puis ils vont vite se rendre compte que quand on essaye de vider un bac avec une éponge, ben, entre le bac et le lavabo, on en met pas mal par terre, hein, puisque ça continue à s'égoutter. Et puis tout ce qui est morceaux de tissu, rouleaux de carton, chiffons permettent d'observer d'autres phénomènes, étanchéité, perméabilité. On a un petit bout de vidéo là avec Marie-Paul notamment où il y a un morceau de rouleau carton qui est au centre des rouleaux d'essuie-tout, qui en fait est tombé dans le bac. Et puis bon, bah, vous imaginez la suite. Hein. En fait, c'est complètement déroulé. Et les élèves ne le reconnaissaient plus d'ailleurs. Alors, donc l'idée effectivement, c'est que ce qu'on vous a montré effectivement, c'est que il y a un événement fortuit ou provoqué par le maître qui a permis dans ce que vous avez vu ce matin, l'idée du savon, ça a été un événement fortuit qui a donné l'idée au maître de travailler sur ce que vous avez vu ce matin, qui est, que j'ai appelé flotte cool, mais c'est l'eau savonneuse, quoi. Donc, voilà quelque chose qui a été fait en petite section. Deuxième idée, deuxième chose qu'on voulait vous présenter, bah, c'est peut-être Brigitte qui va un peu en parler, puisque c'est quand même dans sa classe que ça s'est passé. Donc, c'était quand tu avais encore tes moyennes sections.
Oui, là, du coup, j'avais une classe de moyenne section. Et l'idée, c'était... Donc, on avait tout ce temps d'exploration de manière autonome qui avait duré un certain temps. Et à partir des observations, l'idée était, à certains moments, d'induire des choses par le matériel et puis aussi de donner des petits défis. Donc là, on était sur une idée, comment faire des bulles. Ils avaient aussi subrepticement mis les pailles du goûter dans le bac à eau et ils avaient soufflé. Donc du coup, je m'étais dit, bon bah là, je vais mettre du matériel que pour faire les bulles. Donc j'avais réfléchi en termes de possibles, de potentialités éventuelles, en me disant, bon... on peut souffler, on peut verser rapidement, on peut remplir sous l'eau, on peut secouer. Donc j'avais essayé de voir le type de matériel que je pouvais mettre dans le bac. Voilà, hein, c'est pour travailler sur le geste, observer les effets de ce qu'on pouvait faire. Bon, je vais pas décrire, vous lisez. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donc trouvé pas mal de choses. Ils ont utilisé les bouteilles, les pailles, les bols, les bouteilles avec des bouchons. Et ils ont vidé très haut, donc ils vidaient très très haut et ça faisait des bulles. Ils ont rempli sous l'eau, ils ont soufflé avec la paille, donc ça c'était des choses qu'ils avaient déjà faites. Et ils versaient aussi, puisqu'il y avait un plan incliné dans le bac à eau, ils versaient de l'eau. Ce qui faisait qu'il y avait un espèce de petit tourbillon qui se produisait dans le bas du bac. Et il faisait faire du... En plus, il y avait une activité annexe, donc qui n'était pas sur la consigne. Il faisait faire du toboggan au bouchon. Voilà. Et puis une dernière activité qui, là, ouvrait d'autres possibles, puisqu'ils avaient trouvé un système de fontaine. Ils avaient appelé ça la fontaine, hein, puisqu'avec le trop-plein, l'eau ressortait... L'eau ressortait par la paille. Donc là, on était dans l'action. La différence avec la petite section, c'est donc qu'il y avait une consigne, un défi qui était posé. Et puis aussi qu'après, on essayait d'avoir un temps en décalé pour commencer à parler de ce qu'on avait fait et représenter. Donc là, les dessins que je vous mets, c'est pas ceux de mes élèves. parce qu'à l'époque, j'avais pas de scan et j'avais pas tout le matériel dont on avait besoin. Mais bon, c'était le même type de représentation, c'est-à-dire à la question « comment vous avez fait pour faire des bulles ?» par rapport à ce que disait Marilyn tout à l'heure sur les représentations qui sont liées à un événement, là, on était vraiment sur quelque chose d'égocentrique encore, hein, qui partait de leur expérience. On n'est pas du tout... on est loin du schéma. On relate l'événement qu'on a vécu avec la petite fille, la paille, la table et tout ce qui... Donc on voit bien tout le travail qui reste à faire pour faire évoluer vers ce que tu disais, un phénomène scientifique qui peut avoir lieu n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Et l'autre temps que je mettais en place, c'était un temps de verbalisation. Donc, comme l'a dit Marie-Vonne, décalé du temps de l'action, mais pas trop décalé du temps de l'action. C'est-à-dire qu'une fois que l'atelier était terminé, on se retrouvait dans l'espace regroupement pour faire une petite synthèse. Alors, ce qui avait lancé cette idée de dictée à l'adulte synthétique, c'est que j'accueillais en décloisonnement les enfants d'une autre classe. Et donc on s'était dit, ça serait peut-être bien qu'on rapporte, dans le cadre du travail sur la maîtrise de la langue, qu'on rapporte dans la classe un petit texte que la maîtresse pourrait lire sur ce qu'on a fait. Et donc peu décalé de l'action, c'était ça surtout qui était intéressant. Et quand on regarde les productions, on voit bien aussi, comme on le disait tout à l'heure, qu'on est dans le récit d'un vécu, ou avec des jeux. J'ai soufflé dans la bouteille avec la paille et ça a fait des bulles. J'ai secoué la bouteille. J'ai fait couler beaucoup d'eau et ça a fait des bulles. On était encore en moyenne section sur des formulations très reliées à l'événement. Ce qui était intéressant aussi, c'est que donc ils parlaient peu quand ils étaient en action et que là, l'idée de groupes hétérogènes, j'en étais arrivée à faire surtout des groupes hétérogènes. Parce que dans les temps d'échange, de retour sur l'action dans l'espace regroupement, les enfants qui parlaient peu étaient quand même, de par les sollicitations, au moins amenés à reformuler ce que disaient les autres. En disant « moi aussi, j'ai fait comme ça ». Et donc, j'avais pris le parti de faire des groupes hétérogènes. La difficulté que j'ai eue, c'était de faire évoluer justement les questionnements. C'était comment faire évoluer et passer de ce langage vraiment centré sur eux-mêmes à quelque chose de plus général. Et finalement, ça, on l'a obtenu que dans un travail qu'on a fait plus tard avec les grandes sections. Donc voilà, sur moyenne section, l'idée c'était ça, avoir un temps de retour sur l'action, revenir sur ce qu'on avait fait, aller vers des représentations, une trace, qu'elle soit sous forme de dessin ou sous forme de texte. Voilà.
Donc, par rapport aux grandes sections, on va vous représenter simplement une situation problème là, qui a été vécue par Armel, là, maître formateur sur le groupe de recherche. Donc, on vous reparlera des jardins en carré de la classe de grandes sections, jardins en carré qui ont été construits par la classe installée où on a semé, planté, etc. Donc le problème était effectivement, il fallait arroser le jardin. Donc les élèves effectivement ont proposé en regroupement que pour arroser ce jardin, on pourrait récupérer l'eau de pluie. Bon, on pourrait récupérer l'eau de pluie, donc ils ont décidé d'installer dans... Alors c'est une classe avec un patio, donc un patio bétonné. Et pour construire, pour avoir justement ces jardins en carré, ils ont construit des jardins en carré où ils ont mis de la terre de façon à reconstituer un espace nature. Donc il y a une porte qui sort directement sur ce patio avec ces jardins dont vous allez voir des photos demain. Donc les élèves avec le maître ont disposé dans la cour des récipients et ils ont attendu que ces récipients se remplissent. Et puis évidemment, ils n'ont pas récupéré grand chose. Même en Bretagne, oui, pourtant. Donc, il y a eu très peu d'eau récupérée le lendemain matin dans ces récipients qui étaient installés dehors. Ils ont même dû attendre plusieurs jours, mais enfin, ils n'ont pas récupéré grand-chose. Donc, évidemment, les élèves ont proposé de prendre l'eau au robinet de la classe. ce qui a semblé très rapidement une solution pas très satisfaisante, puisqu'il fallait remettre en application tout ce qu'on savait sur remplir les pichets, les transporter, s'en mettre de l'eau partout, etc. Donc décider que c'était une solution pas très satisfaisante. Donc à partir de là est arrivée l'idée de chercher un point d'eau dans la cour. Donc les élèves ont dans la cour, dans le patio, ils ont donc cherché avec Armel ce point d'eau dans la cour, et il a fallu y brancher un tuyau, ce qui a permis de découvrir le chemin de l'eau. Donc là, vous avez donc les élèves qui donc veulent remplir des seaux avec ce tuyau. Et donc, je vais vous faire part un peu là d'un extrait du carnet de bord d'Armel qui raconte ce qui s'est passé. Et là, je vois Yann chercher où sort l'eau en allant dans le couloir. Héloïse se penchait pour écouter l'eau circuler dans le tuyau. Johanna tenir l'extrémité du tuyau, sachant que l'eau sortira par là. Les trois autres enfants cherchent confirmation à leur supposition. Je propose à Yann de suivre avec les autres le chemin de l'eau dans le tuyau à partir de la prise d'eau. C'est ce qu'il fait avec son doigt en se déplaçant. Il parle des boucles que fait le tuyau. Alors là, elle dit « Là, dommage, je n'en ai pas eu le temps, mais je referai avec un autre groupe. Il aurait fallu prendre le temps de dessiner le chemin de l'eau dans le tuyau. » Plusieurs arrêts et ouvertures du robinet assurent les enfants que l'eau vient du robinet et sort à l'autre extrémité du tuyau. Donc vous voyez, là, on est sur quelque chose qui nous paraît assez évident, et c'est pas si évident que ça pour des élèves de grande section, de savoir que quand on a un robinet, qu'on branche le robinet, qu'on branche un tuyau, qu'on ouvre le robinet, l'eau sort. Avec tout le problème du vocabulaire, ouvrir le robinet...
Etc.
Vas-y.
Comme on disait, ponctuellement, une culture expérimentale de mise à l'épreuve de ses idées.
C'est-à-dire que là, dans une action, on a des idées, des hypothèses, on essaye de voir, et puis on fait, on teste, et on recommence, on vérifie, on revalide, etc. Donc vous êtes sur quelque chose qui est une posture expérimentale. Donc voilà pour la grande section. Alors, on vous avait dit, on va essayer d'aller jusque la grande section et au CP, et on va essayer de vous montrer comment finalement la collègue Marie-Hélène Le Tiec, donc qui a été au cours des années dans le groupe de recherche, certaines années sur des grandes sections CP et d'autres années sur des CP en fonction des différentes années scolaires, à travers un projet de construction de bateaux, a mis en place des espaces dans la classe et comment elle les a utilisés. Donc, en gros, pour vous expliquer un petit peu ce projet, c'est un projet de construction de bateau. C'est une classe qui travaille avec une classe de correspondants. Cette classe de correspondants a le même projet, donc projet de construction de bateau, sachant que ces deux classes se rencontrent à différents moments de l'année, échangent des correspondances et se rencontrent à différents moments de l'année pour échanger sur leur construction. Et vont se rencontrer en fin d'année sur une sortie à Saint-Briac. Saint-Briac, c'est le bord de la mer chez nous, avec le projet de faire naviguer nos bateaux. Donc c'est un projet sur une année, avec des moments où on revient sur le projet, avec tout ce travail de communication, d'échange, de langage avec les correspondants, avec l'idée de travailler sur la construction de bateaux pour finalement travailler sur tout un tas de choses autour des objets, des matériaux, des propriétés de la matière, flotter, couler, etc. Donc voilà. Alors les premiers essais de construction ont eu lieu en novembre et je ne sais pas, est-ce que j'ai le temps de montrer un tout petit... bout de vidéo, donc ça va être techniquement, c'est pas, il faut que j'arrête mon diaporama. Hop, bon, j'arrête un peu pour expliquer. Marilyn a fait le choix au début de l'année de les laisser construire des bateaux, c'est-à-dire qu'elle les a laissés faire des bateaux comme ils pensaient qu'on devait construire un bateau. En gros, ce qui apparaît très très rapidement, c'est que ce qui prime pour l'élève, c'est l'aspect esthétique. Ils ont construit de très jolis bateaux avec de très jolies voiles décorées, avec des coques en carton qui très rapidement On a des bateaux qui coulent, on a des bateaux qui ne sont pas stables, on a des mâts qui penchent, et on a des matériaux qui laissent passer l'eau, qui se gorgent d'eau. C'est-à-dire qu'elle a, au cours de ce temps de construction libre, elle a finalement réussi à faire émerger tout un tas de problèmes et de représentations, quelque part, qui vont pouvoir être, au cours de l'année, réglés par des petites démarches d'investigation. Donc, je relance un peu la vidéo. J'arrête là. Donc le matériel, il est disposé sous le tableau dans des caisses curveurs. Donc les élèves disposent de matériel, là sur cette séance-là, quand on l'avait filmé. En gros, vous voyez, vous avez des bouteilles plastiques, des petites languettes de bois, style les bâtons de glace, mais qu'on achète là dans les magasins spécialisés en série. Vous avez du carton, vous avez du papier crépon, vous avez du papier... du papier cadeau brillant, des paquets de polystyrène, des pics à brochettes en bois, etc. Alors peut-être que, j'attends que vous réagissiez, vous avez vu qu'un élève utilise une vrille. Alors ça a été un petit peu questionné aussi, parce qu'on a cette part de prise de risque. Je crois que Marilyn vous répondrait mieux que moi, puisque nous on l'a questionnée par rapport à ça. Elle apprend à ses élèves à utiliser ce matériel. C'est un choix qu'elle a fait, effectivement, de laisser un certain type de matériel aux élèves pour pouvoir. C'est le problème des vrais objets, quoi. Donc voilà. Et derrière, elle fait un travail d'éducation à la sécurité et à l'utilisation de ces objets, quoi. Alors, il faut savoir aussi... donc, le matériel est disponible par catégorie dans des cagettes sous le tableau. Et les élèves, lors du regroupement qui a précédé... Elle a un système aussi, elle regroupe ses élèves autour de son tableau pour ce type de lancement. Ils ont présenté le matériel a été présenté, ils le connaissent, ils l'ont vu, etc. Bon, elle a aussi travaillé, c'est une collègue qui a fait un master 1, master 2, et elle a pas mal observé de choses autour de la coopération des élèves, et notamment elle avait fait une présentation au congrès de l'OCCE, avec vous, justement autour de la coopération et le travail des élèves. Donc là, vous avez vu un groupe de 2, et on a une autre vidéo avec un groupe de 3, où on essaie de voir un peu les interactions entre les élèves. Alors, je vais revenir à mon diaporama. Donc voilà, les problèmes rencontrés, je vous les redonne. Les bateaux qui coulent, les bateaux qui ne sont pas stables, les mâts qui penchent, les matériaux qui laissent passer l'eau, qui se gorgent d'eau, etc. Donc, ce qu'on voulait vous montrer... en dehors de ce projet, c'est que finalement, Marilyn a décidé de mettre en place dans sa classe des espaces temporaires. Alors, c'est une classe petite, trop petite, pour permettre l'installation d'espaces permanents. Donc, elle a fait le choix de fabriquer des sortes de mallettes par espace à déployer. C'est-à-dire que les élèves peuvent prendre une mallette et la mettre sur une table. Donc voilà un espace avec la mallette là qui a été un petit peu ouverte pour que vous la voyez. Donc dans cette mallette qui correspond à l'espace construire un bateau, vous avez une bassine. La bassine elle n'est pas dans la mallette, elle est à côté de la mallette. Vous avez différents matériaux à l'intérieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, des bouchons, des petits bouts de bois, des pics à brochettes, on voit les boîtes de tic-tac là, je pense que ça on peut le voir, l'identifier. Et puis vous avez les outils qui sont dans la boîte noire derrière. Vous avez des fiches techniques diverses. Et puis, vous avez, donc on a mis sur la table ici des constructions d'élèves. Alors, cet espace, il peut fonctionner de trois manières différentes. Première manière de fonctionner, il est conduit par l'enseignante. Ici, vous avez un espace, disons que le problème posé, c'est de faire, te trouver un système de propulsion. Vous voyez, on le lit un petit peu sur la photo de droite. Vous voyez que l'élève a fabriqué un bateau avec un mât et puis une voile. C'est une espèce de voile en couleur rouge et on voit que l'élève souffle. Donc la question, donc effectivement, le problème, c'est faire avancer le bateau. Donc effectivement, c'est conduit par l'enseignante. L'enseignante a aménagé la difficulté, c'est-à-dire que les flotteurs sont déjà prêts. Et elle a centré l'élève sur le problème. Et surtout, dans cet espace, les élèves peuvent faire des essais. C'est-à-dire qu'ils disposent d'un bac avec de l'eau. Et donc, ils fabriquent, ils essayent, ils recommencent quand ça marche pas. Ils retournent bricoler, ils réessayent, etc. Mais là, on est dans une logique. L'enseignante est très présente sur cet espace. Et puis... cet espace, toujours le même matériel, peut fonctionner en activité de construction autonome. C'est-à-dire que là, on est dans une logique d'espace en autonomie. Donc dans ce cas-là, les élèves vont continuer à faire des essais, erreurs, essayer d'améliorer leur fabrication, s'adapter aux conditions matérielles, vont fabriquer d'autres choses. Et là, on est dans une logique de fabrication autonome. Et puis... on y observe aussi dans cet espace des temps encore plus autonomes où là, les élèves, ils recommencent, ils explorent. Et là, on a des choses très semblables à ce qu'on observe dans un coin haut de petite section. Alors, bien évidemment, tout ça, ça nécessite dans le temps d'organisation de la classe, de prévoir du temps pour ça. Alors, on a essayé de vous montrer là comment le fait que ces espaces fonctionnent conjointement au même moment, le même jour, va pouvoir être très très fécond. Alors là, en particulier, vous avez trois espaces dans cette classe qui fonctionnent le même jour. Un espace float cool, où les élèves peuvent tester toutes sortes d'objets dans un aquarium. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez classique. Vous avez un espace bateau où ils construisent des petites embarcations librement. Et puis, vous avez cet espace de manipulation dont on a parlé, ou plus conduite, pour tester des moyens de propulsion. Et là, on va vous montrer comment un élève qui va migrer d'un espace à l'autre va apporter une réponse originale et imprévue à un problème qui va mobiliser la classe, qui est le problème de l'insubmersibilité des bateaux. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment Marilyn le raconte dans son carnet de bord. Donc, cet homme, l'élève, il va circuler entre les trois espaces. Il observe le travail de recherche effectué par les élèves qui utilisent des coques à bouchons. Puis, il va dans l'espace construction chercher une bouteille. Enfin, il se rend dans l'espace eau et effectue des transvasements. Il retourne ensuite à l'espace construction. Il prend les bouchons avec lesquels il s'amuse à remplir la bouteille dans laquelle se trouve encore de l'eau. Il fait ensuite des essais dans un aquarium, bouteille avec bouchon et eau, bouteille avec bouchon sans eau. Donc ce que dit le maître, ce qui a retenu mon attention dans cet épisode, ce sont les effets de la circulation de Tom entre espaces dédiés à l'eau, mais déclinant des activités différentes. Cet élève a eu des temps d'observation, puis il a enchaîné des essais sans intention claire au départ. J'ai invité Tom à présenter sa découverte à la classe. Et là, vous voyez que le rôle du maître est absolument déterminant. Donc, il y a eu un moment où j'ai invité Tom à présenter sa découverte à la classe. Donc, lors des échanges du matin, parce que dans cette classe-là, elle a un temps d'échange le matin, il a fait deux essais. La bouteille pleine de bouchons, puis la bouteille pleine de bouchons et remplie d'eau. La classe a donc pu constater que cette découverte pouvait être une solution à un problème qui s'était posé lors des fabrications. Si les bouteilles utilisées pour faire la coque d'un bateau se remplissaient d'eau, celui-ci penchait ou coulait. Et vous savez aussi que quand on ne leste pas un bateau, c'est pas facile non plus, quoi. C'est le problème du lest. Donc nous avons écrit une fiche retraçant cela, elle comportait une question, comment faire pour qu'une bouteille qui se remplit d'eau ne coule pas, et des photos, nous avons collectivement formulé une réponse qui a été recopiée. Donc là, on a finalement des mises en relation au croisement de ces trois types d'espaces. Donc là, je vous rappelle qu'on est dans une classe de CP avec un temps qui est dédié à ce temps dans les espaces. Alors, bon, là, vous allez retrouver derrière tout ça des choses peut-être plus classiques et plus connues pour certains d'entre vous. Donc, évidemment, pour fabriquer, pour améliorer ces fabrications, pour passer de ces bateaux qui n'arrêtaient pas de couler, de pencher, de s'imbiber du début de l'année, il a fallu faire un certain nombre d'investigations. Donc, évidemment, classiquement, est-ce que ça flotte, est-ce que ça coule? Donc, l'idée de faire des essais, de trier des objets. Donc là, vous avez des choses aussi assez classiques. Donc, la liste des objets qui coulent, la liste des objets qui flottent. Hein. Je passe assez vite. Ensuite, vous avez eu des questions autour de comment faire flotter un objet qui coule. Donc, le morceau de craie posé sur un couvercle en plastique flotte. Le morceau de craie posé sur un carton coule. Donc vous voyez que là, ce que vous avez en bas, c'est en fait... alors là, on va peut-être pas partir sur les problèmes des écrits, mais là, vous avez des écrits qui sont toilettés, qui sont la mise au bout de 3 écrits d'élèves différents pour constituer un écrit qui est un écrit collectif. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait dans un cahier individuel un écrit individuel d'un élève. Un élève a écrit la mettre dans une bouteille de plastique, l'autre le mettre dans un bateau, l'autre le mettre dans un œuf en plastique. Et après, vous avez une reprise pour faire un écrit qui est plus collectif avec un écrit qui, lui, est toiletté. Comment faire couler un objet qui flotte? Même principe. Je continue. Et puis là, vous retrouvez le dessin qui correspond à la question comment faire pour qu'une bouteille qui se remplit d'eau ne coule pas, avec l'écrit donc qui est aussi donc il faut mettre plein de bouchons dedans. Il y a moins d'eau qui rentre dans la bouteille, les bouchons vont faire flotter la bouteille s'enfonce un peu à cause de l'eau qui est lourde. Vous voyez, là on est sur des écrits qui sont un écrit personnel avec des écrits toilettés. Alors là, Marilyn Letiec, donc qui est une enseignante de CP, a une position par rapport à l'orthographe en particulier, puisqu'on est là sur la question du cahier d'expérience. Elle finit par toiletter tout ce qui va rester dans les cahiers collectifs, etc. Donc les élèves écrivent au crayon et elle repasse à l'encre dessus tout ce qui est collectif, avec, peut-être que je vais laisser Brigitte expliciter ça, l'idée, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez nos collègues à l'UFM de Bretagne en cycle 2. En cycle 2, par rapport à l'idée qu'on est dans un temps de construction de la langue et de la nécessité de donner aux élèves, de permettre aux élèves de mémoriser des mots correctement orthographiés. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que effectivement les élèves vont écrire sur des écrits type cahier d'expérience, c'est-à-dire ils écrivent spontanément, il n'y a rien derrière, la maîtresse laisse écrire, mais elle étaye énormément, c'est-à-dire que les élèves ont dans leur environnement visuel tous les repères qui leur permettent de trouver comment s'écrit bouchon, comment s'écrit eau, comment s'écrit bouteille, et des imagiers, comment on dit des référents, quoi, qu'ils soient affichés ou des petits imagiers avec les mots. Bon, je vais vous arrêter puisqu'on glisse sur un autre sujet. C'était une explicitation par rapport à ces textes à toiletter, là, que je vous présente. Dernier problème qui s'est posé pour ces deux classes, il fallait fabriquer un bassin pour faire flotter les bateaux. Question de sécurité. L'idée, c'était pas d'envoyer tous les élèves de CP des deux classes avec des bottes à marée montante ou descendante. Donc l'idée a été de creuser dans le sable et puis d'installer un matériau qui puisse retenir l'eau. Donc là, vous avez la photo pour voir à quoi on est arrivé, mais je vais vous montrer comment on est arrivé à ça. Donc vous voyez bien que là, on est tombé sur le problème perméable ou imperméable. Donc voilà les idées que les élèves ont proposées pour effectivement fabriquer le bassin. Donc vous voyez, ça passe du tissu de coton, le bois, le plastique, le papier, la feuille d'aluminium, le polystyrène, le papier crépon, le fer, la terre, la pâte à modeler, le blue tack. Voilà. Donc le professeur a choisi de dire aux élèves, on va faire des essais sur un certain nombre de ces de ces éléments. Vous voyez qu'elle en a supprimé en discutant avec les élèves. Hein. Le lierre, par exemple, ils ont discuté ensemble, ils n'allaient pas tester sur le lierre, ça n'avait pas de sens. Donc ils ont fait effectivement des expériences pour savoir quels matériaux pourraient être imperméables pour fabriquer un bassin pour faire naviguer des bateaux. Là, je vous les ai laissés à droite, donc avec le plastique, donc un pot, une boîte transparente plastique, une boîte transparente avec dessus une feuille de plastique, avec un travail qui a été fait sur ces CCP d'anticipation, c'est-à-dire nous pensons que là l'eau ne va pas traverser. Donc voilà les expériences. Ils ont donc les boîtes plastiques, la feuille de plastique par-dessus. Ils ont versé de l'eau et ceci. Ils l'ont fait avec un certain nombre des matériaux de la liste. Ici, vous avez, le vrai cahier d'expérience ici. Hein. Donc, vous voyez le t-shirt. Donc, vous avez le t-shirt rouge à droite. Là, effectivement, l'eau qui passe à travers le t-shirt. Et puis, donc, voilà les résultats. C'est-à-dire, alors vous allez voir, c'est là où on a toujours les joies des expériences en sciences. Donc vous avez le polystyrène, le papier crépon, c'est super intéressant parce que l'eau, elle est rouge. Ça permet d'aller sur autre chose après. Hein. La pâte à modeler, le plastique, ça n'a pas passé. Le tissu de coton, ça a passé. La terre qu'on avait mis dans une passoire, évidemment, l'eau a passé. La boîte en fer, c'était une boîte de conserve vide, style boîte de conserve vide, était efficace pour empêcher l'eau de passer. Le blue tack aussi. Et le papier, eh ben le papier, c'est pas passé à travers. Donc une feuille de papier style fait comme ça, là, posée sur une boîte de cette boîte plastique de l'eau, et on a laissé le papier longtemps parce qu'on s'est dit ça finira bien par passer, et en fait c'est jamais passé parce que ces papiers sont plus ou moins glacés et qu'en fait la quantité d'eau était insuffisante pour que ça n'est pas passé. Donc ça c'est intéressant parce qu'on est aussi dans des situations qui nous arrivent quand on laisse les expériences se faire. Alors à partir de là, je vous raconte la suite de l'histoire. Donc les élèves ont choisi un certain nombre de matériaux. Donc avait été sélectionné effectivement le papier, on l'avait évacué parce qu'on avait dit que c'était vraiment trop fragile, le plastique et le fer. Alors la plaque de fer, c'était trop difficile de rentrer une grande plaque de fer dans l'autobus. Donc ça a été évacué. Donc on a choisi le plastique. Vous avez vu la bâche plastique, mais ce qui est très très amusant, c'est quand on a demandé aux élèves, bon, alors qu'est-ce qu'on va prendre comme plastique? Et vous savez ce qu'ils ont répondu? Eh ben, on va prendre des sacs plastiques. Des petits sacs plastiques, et on va les mettre les uns à côté des autres. Moi, je trouve que c'est assez intéressant parce que vous voyez que on a travaillé sur la perméabilité, mais au moment de la fabrication du bassin, ben, les élèves, ils ont pensé qu'on allait mettre des sacs plastiques les uns à côté des autres, dans le trou, pour empêcher l'eau de passer. Bon, finalement, on s'est pas appesanti là-dessus, parce qu'on s'en serait pas sorti. Et donc, on a fait naviguer les bateaux, effectivement, à la mer, dans cette grande fosse qu'on avait fait dans le sable, avec cette bâche plastique, il y avait du vent, et donc, les bateaux ont navigué. Donc voilà. Je vous montre pas la vidéo des bateaux parce qu'on n'est pas très en avance. Donc voilà, en gros, dans ce groupe de recherche, différentes, un peu comme on a vu, une espèce de progressivité de la petite section jusqu'au CP. Et surtout, ce qui nous a semblé intéressant de vous montrer, c'est comment Marilyn Letiec, finalement, a installé des espaces dans sa classe, des espaces modulables dans une petite classe, et comment, autour de ce projet bateau, elle a fabriqué des mallettes qui sont des mallettes de matériaux de construction avec du matériel, à la fois des outils, à la fois des matériaux, à la fois la possibilité de mettre une bassine avec de l'eau, où les élèves peuvent travailler, à la fois guidés par le maître, à la fois sur une tâche précise mais en autonomie, ou à la troisième version, dans une autonomie beaucoup plus importante, où ils sont dans des essais, erreurs, validation de propositions, mais qui sont leurs propositions.